Chapitre 7. Une fois le corps de Brian Darby emporté et Tessa Leoni transférée à l'hôpital, les nécessités pratiques de l'enquête pour homicide se faisaient moins pressantes, tandis que les recherches pour retrouver la petite Sophie s'accéléraient. Ce que considérant, Didi convoqua les membres de la cellule d'enquête dans le PC mobile pour les cravacher. Témoin. Didi voulait que les agents en tenue lui fournissent une liste succincte de tous les voisins qui méritaient d'être réinterrogés. Elle affecta donc 6 enquêteurs de la criminelle à ses auditions, qui devaient être conduites dans les plus brefs délais. Tout témoin crédible ou suspect potentiel devait être identifié et entendu dans les 3 minutes suivantes. Caméra. Boston en était truffée. La municipalité en installait pour réguler la circulation, les entreprises pour sécuriser leurs locaux. Didi forma une équipe de 3 hommes qui n'auraient pas d'autre mission que de recenser toutes les caméras dans un rayon de 3 km et de visionner toutes les images des 12 dernières heures en commençant par les caméras les plus proches avant d'élargir le périmètre. Cercle des relations. Amis, parents, voisins, enseignants, babysitters, employeurs. Didi voulait d'ici 45 minutes le nom de quiconque avait un jour mis les pieds dans la propriété. Elle voulait en particulier qu'on recense et qu'on passe à la moulinette tous les enseignants et camarades de jeu de Sophie Leoni, tous les adultes qui s'occupaient d'elle. Vérification approfondie des antécédents, inspection du domicile si l'enquêteur parvenait à y mettre les pieds. Le but du jeu, éliminer les amis, identifier les ennemis et que ça saute. D'autres gens encore connaissaient cette famille. Inimitié que le mari se serait attiré au boulot, criminel arrêté par l'agent Leoni, voire partenaire de liaison torride ou confident de longue date. Oui, d'autres gens connaissaient Brian Darby et Tessa Leoni. Et l'un d'entre eux savait peut-être ce qu'était devenue la petite fille de 6 ans aperçue pour la dernière fois endormie dans son lit. Le temps ne jouait pas en leur faveur. « C'est parti, on se bouge, course contre la montre !» ordonna Didi à son équipe. Puis elle se tut et les renvoya au travail. Les enquêteurs décollèrent, les gradés approuvèrent, Bobby et elle retournèrent dans la maison. Didi faisait confiance à ses collègues pour entreprendre la tâche titanesque consistant à passer au crible les moindres nuances de la vie de toute une famille. Mais ce qu'elle-même voulait faire en priorité, c'était se replonger dans l'atmosphère des dernières heures des victimes. Elle voulait faire entrer la scène de crime dans son ADN, s'imprégner des plus petits détails domestiques, depuis le choix des peintures jusqu'à celui des bibelots, envisager le décor sous 10 angles différents, le peupler d'une petite fille, d'un père dans la marine marchande et d'une mère dans la police. Ce lieu, ces 3 vies, ces 10 dernières heures. Tout se résumait à ça. Une maison, une famille, la collision tragique de plusieurs existences. Didi avait besoin de voir, d'éprouver, de vivre la scène. Ensuite, elle pourrait disséquer la famille pour accéder à la noirceur de sa vérité profonde, ce qui l'amènerait à son tour à Sophie Leoni. L'estomac de Didi se souleva nauséeux. Elle essaya de ne pas y penser lorsque Bobby et elle entrèrent à nouveau dans la cuisine ensanglantée. D'un commun accord, ils commencèrent par le premier étage. 2 chambres mansardées séparées par une salle de bain avec WC. Dominée par un grand lit double avec une simple tête de lit en bois et une couette bleu marine, la chambre sur rue était celle des parents. La literie sembla immédiatement plus masculine que féminine à Didi. Rien d'autre dans la pièce ne modifia son opinion. La large commode, du chêne en mauvais état, sentait son célibataire à plein nez. Posée dessus, une vieille télé 90 cm réglée sur la chaîne sportive. Des murs tout blancs, un plancher nu, pas tant un nid conjugal qu'un lieu où faire étape, pensa Didi. Un endroit où dormir, se changer et ressortir. Didi ouvrit le placard. Il était rempli aux 3/4 de chemises d'hommes impeccablement repassées, triées par couleur. Venaient ensuite 5 ou 6 jeans soigneusement pendus, puis un méli-mélo de pantalons et de hauts en coton, 2 uniformes de la police, un uniforme de cérémonie et une robe à fleurs orange. Il prenait plus de place dans la penderie, indiqua Didi à Bobby qui examinait la commode. Il y a des hommes qui se sont fait tuer pour moins que ça. Sérieux? Regarde-moi ça. Des chemises triées par couleur, des jeans repassés. Brian Darby était plus que maniaque. Il frôlait la folie pure et simple. Il était aussi en train de tourner Armoire à glace. Regarde un peu. Entre ses mains gantées, Bobby tenait une grande photo encadrée. Didi finit d'inspecter le coffre-fort vide qu'elle avait trouvé dans le coin gauche de la penderie et le rejoignit. La photo montrait Tessa Léonie avec la robe d'été orange et un cardigan blanc, un petit bouquet de lys tigré à la main. À côté d'elle, Brian Darby en veste sport marron, un lys tigré au revers. Devant eux, une petite fille, sans doute Sophie Léonie, en robe de velours vert foncé, une couronne de lys dans les cheveux. Tous trois souriaient d'un air radieux à l'appareil, une famille heureuse qui fêtait un événement heureux. « Photo de mariage », murmura Didi. « C'est ce que j'aurais dit. Mais regarde Darby, sa carrure. » Docile, Didi regarda l'ancien jeune marié devenu défunt mari. « Beau mec », jugea-t-elle. Un petit côté flic ou soldat avec ses cheveux blonds coupés en brosse, son menton taillé à la serpe, ses épaules carrées. Mais cette impression était contrebalancée par la chaleur de ses yeux bruns, dont un sourire plissait les coins. Il semblait heureux, détendu. Pas le genre qu'on soupçonnerait immédiatement de battre sa femme, ni d'ailleurs de repasser ses jeans. Didi rendit la photo à Bobby. « Je ne vois pas. Il était heureux le jour de son mariage, et alors ? Ça ne prouve rien ?»« Non. Il était plus mince le jour de son mariage. Le Brian Darby de la photo fait 90 kilos. J'imagine qu'il faisait du sport, qu'il était actif. » Mais le Brian Darby qui est mort, Didi se souvint de la description que Bobby lui en avait donnée. Un déménageur, tu m'as dit. 105, 110 kilos, sans doute culturiste. Donc ce n'est pas qu'il s'est marié et qu'il a pris du gras, ce que tu me dis, c'est qu'il s'est marié et qu'il a pris du muscle. Bobby confirma. Didi repensa à la photo. Pas facile d'être en couple quand c'est la femme qui porte un pistolet. Murmura-t-elle. Bobby ne releva pas, et elle lui en sut gré. « Il faudrait qu'on trouve son club de gym, » dit-il, « qu'on se renseigne sur son régime alimentaire, savoir s'il prenait des compléments. Agressivité liée aux stéroïdes ? » La question mérite d'être posée. Ils sortirent de la chambre et passèrent dans la salle de bain. Cette pièce-là, au moins, avait une touche de personnalité. Un rideau de douche à rayures de couleurs vives tiré autour d'une vieille baignoire à pattes de lion. Une sortie de bain ornée d'un petit canard jaune sur le carrelage. Des empilements de serviettes jaunes et bleues qui réchauffaient les étagères en bois. Il y avait aussi plus de signes de vie, une brosse à dents Barbie sur le bord de l'évier, une pile d'élastiques à cheveux violets dans un panier posé sur le réservoir des toilettes, un verre à dents en plastique transparent qui clamait « la petite princesse de son papa ». Didi inspecta l'armoire à pharmacie et y trouva trois médicaments délivrés sur ordonnance. Un pour Brian Darby, de l'Ambien, un somnifère. Un pour Sophie Léonie, une pommade ophtalmique. Le troisième pour Tessa Léonie, de l'hydrocodone, un antalgique. Didi montra le flacon à Bobby. Il prit note. À creuser avec le toubib, voir si elle avait été blessée peut-être pendant le service. Didi approuva. Le reste de l'armoire contenait une pléthore de lotions, crème à raser, rasoirs et eau de cologne. La seule chose remarquable, songea Didi, était la réserve assez impressionnante de matériel de premier secours. Beaucoup de pansements, de plusieurs tailles. Une femme battue qui faisait des stocks pour réparer les inévitables dégâts ou juste la vie comme elle va dans une famille active. Didi regarda sous le lavabo et trouva l'assortiment habituel de savon, papier toilette, articles d'hygiène féminine et produits d'entretien. Ils passèrent à la pièce suivante. Cette chambre était manifestement celle de Sophie. Des murs roses pastel avec des fleurs vert pâle et bleu layette peintes au pochoir. Un tapis en forme de fleurs. Un mur entier de cases de rangement blanc brillant qui débordait de poupées, de robes et de chaussons de danse à paillettes. Tessa et Brian vivaient dans une cellule de moines. La petite Sophie, en revanche, habitait un jardin enchanté, avec des petits lapins qui couraient sur le plancher et des papillons peints autour des fenêtres. C'était le comble de l'obscénité, pensa Didi, de se retrouver dans un endroit pareil et d'y chercher des traces de sang. Elle avait posé sa main sur son ventre et ne s'en aperçut même pas lorsqu'elle commença avec prudence une première inspection visuelle du lit. Luminol ? Demanda-t-elle à mi-voix. Rien donné. Conformément à la procédure, les techniciens de scène de crime avaient vaporisé du luminol sur les draps de Sophie Léonie. Ce produit réagissait en présence de fluides corporels comme le sang ou le sperme. Si cela n'avait rien donné, cela voulait dire que les draps étaient propres. Mais pas que Sophie Léonie n'avait jamais subi d'agression sexuelle. Seulement qu'elle n'avait pas été agressée récemment dans cette paire de draps. Les techniciens examineraient aussi le linge sale et, au besoin, sortiraient même les draps de la machine à laver. À moins que la personne ait su qu'il fallait tout passer à la javel. C'était incroyable ce que le luminol pouvait détecter sur des draps propres. Encore une chose que Didier, au milieu de ce jardin enchanté, aurait préféré ignorer. Elle se demanda qui avait peint cette chambre. Tessa? Brian? Peut-être qu'ils y avaient travaillé tous les trois à l'époque où l'amour était neuf et les membres de cette famille pleins d'entrain et de dévouement les uns pour les autres. Elle se demanda combien de nuits au juste s'étaient écoulées avant que Sophie ne se réveille au bruit d'une gifle retentissante, d'un cri étouffé. À moins qu'elle n'ait pas du tout été endormie. À moins qu'elle ait été assise à la table de la cuisine ou en train de jouer à la poupée dans un coin. Peut-être que la première fois elle avait couru vers sa mère. Peut-être que... Oh mon Dieu. Didi n'avait aucune envie de travailler sur cette affaire en ce moment. Elle serra les poings, se tourna vers la fenêtre et se concentra sur la lumière médiocre de cette journée de mars. Bobby s'était immobilisé près du mur. Il l'observait sans rien dire. Une fois de plus, elle lui en fut reconnaissante. « Il faut qu'on sache s'il y a un doudou préféré, » dit-elle enfin. Une poupée de chiffon, robe verte, cheveux en laine marron, des boutons bleus pour les yeux. Elle s'appelle Gertrude. Didier hocha la tête et parcourut lentement la pièce du regard. Elle repéra une veilleuse. Sophie a peur du noir, mais pas de doudou. « Je ne la vois pas. » Le premier intervenant non plus ne l'a pas vue. Jusqu'à nouvel ordre. On part du principe qu'elle a aussi disparu. Pyjama? L'agent Léonie dit que sa fille portait un pyjama à manches longues, rose, avec des chevaux jaunes. Introuvable. Didi eut une idée. Et son manteau? Son bonnet? Ses bottes de neige? Je n'ai pas ça dans mes notes. Pour la première fois, Didi entrevit une lueur d'espoir. S'il n'y a ni manteau ni bonnet, ça veut dire qu'elle a été tirée du lit en pleine nuit. On ne lui a pas laissé le temps de se changer, mais de s'emmitoufler, oui. Inutile d'emmitoufler un cadavre, renchérit Bobby. Ils sortirent de la chambre et descendirent les escaliers au pas de course, inspectèrent la penderie et les coffres qui contenaient les chaussures et les accessoires d'hiver à côté de la porte d'entrée. Pas de petit manteau, pas de petit bonnet, pas de petites bottes de neige. Sophie Léonie était emmitouflée, exulta Didi. Elle a quitté cette maison vivante. « Parfait. Il ne nous reste plus qu'à la retrouver avant la nuit. » Ils remontèrent à l'étage le temps de chercher des signes d'effraction sur les fenêtres. Ils n'en trouvèrent pas et redescendirent faire la même chose au rez-de-chaussée. Les deux portes étaient relativement neuves, dotées de verrous qui ne semblaient pas avoir été forcés. Les fenêtres du jardin d'hiver étaient, découvrirent-ils, tellement vétustes et gonflées par l'humidité qu'elles refusaient de s'ouvrir. L'un dans l'autre, la maison semblait sûre. À voir sa tête, Bobby ne s'était pas attendu à autre chose. Didi non plus. C'était la triste règle dans les affaires de disparition d'enfants. La plupart du temps, le danger vient de l'intérieur de la maison, pas de l'extérieur. Ils inspectèrent le séjour qui rappelait la chambre parentale à Didi. Des murs nus, un tapis beige sur le plancher. Le canapé d'angle en cuir noir avait plus l'air d'avoir été acheté par lui que par elle. Au bout du canapé, un ordinateur portable, assez récent, était encore branché sur une prise murale. La pièce était aussi équipée d'un téléviseur à écran plat fixé au-dessus d'un meuble télédesign qui contenait une chaîne Hi-Fi dernier cri, un lecteur de DVD Blu-ray et une console Wii. « Monsieur avait ses joujoux », fit remarquer Didi. « Ingénieur ». Didi examina une petite table à dessin installée dans un coin pour Sophie. Sur le côté, une pile de feuilles blanches. Au milieu, un pot à crayon. Point final. Pas de dessin en cours. Pas de chef-d'œuvre exposé au mur. Très rangé, se dit-elle, surtout pour une enfant de 6 ans. La froideur de cette maison commençait à lui taper sur les nerfs. Les gens ne vivent pas comme ça. En tout cas, ceux qui ont des enfants ne devraient pas. Ils passèrent dans la cuisine où Didi se tint aussi loin que possible de la silhouette de cadavre dessinée au sol. Taches de sang, chaises renversées et verres brisés mis à part, la cuisine était entretenue avec un soin méticuleux comme le reste de la maison. Tout aussi défraîchie et vieillotte. Des placards de 30 ans d'âge, en bois sombre, des appareils tout blancs, un plan de travail en formica plein de taches. La première chose que ferait Alex dans cette maison, songea Didi, ce serait de vider la cuisine du sol au plafond pour la moderniser. Mais pas Brian Darby. Son argent passait dans des appareils électroniques, un canapé en cuir et sa voiture. Pas dans la maison. Il faisait des efforts pour Sophie, remarqua Didi à voix haute, mais pas l'un pour l'autre. Bobby se tourna vers elle. « Pense un peu à ça, » continua-t-elle. « C'était une vieille maison dans son jus et elle est restée dans son jus. Comme tu n'arrêtes pas de le rappeler, il est ingénieur, donc on pourrait penser qu'il sait un minimum se servir d'outils. À eux deux, ils gagnent bien 200 000 $ par an, sans compter qu'il a ses fameuses vacances de 60 jours. Donc ils auraient des compétences, du temps et des moyens à consacrer à la maison. Mais ils ne le font pas. Sauf dans la chambre de Sophie. À elle, la chambre repeinte, les meubles neufs, la jolie literie, etc. Ils faisaient des efforts pour elle, mais pas pour eux. Alors je me demande dans combien d'autres domaines de leur vie cette règle se vérifiait.
La plupart des parents se focalisent sur leurs enfants, observa doucement Bobby.
Ils n'ont même pas accroché un cadre.
L'agent Léonie fait de longues journées, Brian Darby passe des mois d'affilée en mer. Peut-être que, quand ils sont chez eux, ils ont d'autres priorités.
Comme quoi, par exemple?
Bien, je te montre le garage.
Ce garage rendit Didi complètement dingue. Les trois murs de ce large espace éclairé par deux fenêtres étaient recouverts par le système de rangement le plus délirant qu'elle ait jamais vu. Sans rire. Du sol au plafond, des panneaux perforés sur lesquels étaient fixées des étagères sur tasseaux, des crochets à vélo, des bacs en plastique qui contenaient des équipements de sport et même un support pour sacs de golf fait maison. Au premier coup d'œil, Didi fut frappé par deux choses en même temps. Brian Darby devait beaucoup aimer les activités de plein air. Et Brian Darby aurait dû consulter pour maniaquerie aiguë.
« Le sol est propre, » dit-elle. « On est en mars. » Il a neigé, et toute la ville est pratiquement ensevelie sous une couche de sable. Comment est-ce que le sol peut être aussi propre?
Il garait sa voiture dans la rue.
Il garait son break à 60 000 $ dans une des rues les plus passantes de Boston plutôt que de salir son garage.
Léonie aussi garait sa voiture dehors. L'administration aime que nous laissions nos voitures en évidence dans le quartier. La présence d'un véhicule de police est considérée comme dissuasive.
C'est du délire!
Didi s'approcha d'un mur où elle trouva un grand balai et une pelle à poussière côte à côte sur un râtelier. Venaient ensuite deux poubelles en plastique et un récipient bleu pour le recyclage où elle découvrit une demi-douzaine de bouteilles de bière. Les poubelles étaient vides, les sacs avaient déjà dû être emportés par les techniciens de scène de crime. Didi passa à pas lents à côté du VTT de monsieur, du VTT de madame et d'un petit vélo rose qui appartenait manifestement à Sophie. Elle trouva une rangée de sacs à dos et une étagère dédiée à des chaussures de randonnée de différents poids et pointures, dont une paire rose pour Sophie. « Randonnée, vélo, golf », conclut-elle. L'autre côté du garage lui permit d'adjoindre le ski à cette liste. 6 paires de skis, 3 de skis alpins, 3 de skis de fond et 3 paires de raquettes de neige. « Quand Brian Darby était à la maison, il fallait qu'il bouge », ajouta Didi à son profil psychologique.
Et il voulait avoir sa famille avec lui,
observa Bobby en montrant les équipements pour femmes et enfants qui complétaient chaque trio.
Seulement, comme Tessa nous l'a déjà expliqué, reprit Didi d'une voix songeuse, elle avait son travail, Sophie avait l'école. Et donc Brian se retrouvait souvent tout seul. Pas de famille aimante pour l'accompagner, pas de public féminin à éblouir par ses prouesses masculines.
Stéréotype,
la mit en garde Bobby.
« Je t'en prie, » répondit Didi en montrant le garage. « On nage dans le stéréotype, là. Ingénieur, maniaque. Si je reste ici plus longtemps, je vais avoir la migraine. »«
Tu ne repasses pas tes jeans ?»
Je n'étiquette pas mes outils. Franchement, regarde-moi ça!
Elle était arrivée à l'établi où Brian Darby avait rangé ses outils électriques sur une étagère qui portait une étiquette pour chacun d'eux.
« Beaux outils !» s'étonna Bobby. « Très beaux outils !»«
Il y en a facile pour 1 000 $. »«
Et avec ça, il ne retape pas la maison !» se lamenta Didi. « Je suis à fond avec Tessa sur ce coup-là »
« Peut-être que ce n'est pas de s'en servir qui l'intéresse, seulement de les acheter. »
Brian Darby aime avoir des joujoux. Ça ne veut pas dire qu'il s'amuse avec. Didi envisagea cette hypothèse. C'était évidemment une possibilité qui expliquerait l'état impeccable du garage. Facile de ne pas salir si l'on ne s'y garait jamais, si l'on n'y travaillait jamais, si l'on ne venait jamais y prendre de matériel. Mais elle écarta cette idée.
« Non, il n'a pas pris 15 kilos de muscles en se tournant les pouces à longueur de journée. À ce propos, où sont les appareils de musculation ?»
Ils regardèrent autour d'eux. Avec tous ces jouets, ni haltères, ni bancs de musculation.
« Il doit faire partie d'un club, » conclut Bobby.
« À vérifier. Donc, Brian est du genre sportif. Mais sa femme et sa fille sont très occupées. Alors peut-être qu'il fait des choses de son côté pour passer le temps. Malheureusement, il trouve quand même la maison vide en rentrant et ne tient pas en place. » Alors il commence par récurer à fond le moindre centimètre carré, et ensuite, il s'envoie quelques bières.
Didi fronçait les sourcils. Elle se dirigea vers le coin d'en face où le sol en ciment était plus sombre. Elle se baissa, tâta la zone du bout des doigts. Humide.
Une fuite ? Se demanda-t-elle en essayant de voir si le coin du mur pouvait avoir des problèmes d'infiltration,
mais bien sûr, les parpaings étaient là aussi recouverts de panneaux perforés.
« Possible, » dit Bobby en s'approchant de l'endroit où elle était accroupie. « Tout ce coin est bâti à flanc de colline. Il pourrait y avoir des problèmes d'écoulement des eaux ou même un tuyau qui fuit au-dessus.
À surveiller, pour voir si ça grandit. »«
Tu as peur que la maison s'effondre pendant que tu en es responsable ?»«
Non, j'ai peur que ce ne soit pas une fuite d'eau. Ce qui voudrait dire que ça vient d'autre chose et je voudrais savoir quoi. »
Sans qu'elle s'y attende, Bobby sourit.
« Peu importe ce que diront mes collègues, Tessa Léonie a de la chance de t'avoir sur son affaire, et Sophie Léonie a encore plus de chance. »«
Oh, va te faire voir !»
Didi se redressa, toujours plus décontenancée par les compliments qu'elle n'était énervée par les critiques.
« Allez, on y va !»
« La tâche d'humidité t'a dit où était Sophie ?»«
Non !»
Étant donné que l'avocat de Tessa Léonie n'a pas, comme par enchantement, appelé pour nous autoriser à l'interroger, on va se concentrer sur Brian Darby. Je veux parler à son patron. Je veux savoir quel genre d'homme éprouve le besoin de trier ses vêtements par couleur et de tapisser son garage d'étagères de rangement.
Un malade qui a besoin de tout contrôler.
Tout juste. Et quand quelque chose ou quelqu'un menace d'échapper à ce contrôle,
jusqu'à quel point peut-il se montrer violent ?
Termina Bobby. Il se tenait au milieu du garage.
Je ne pense pas que Sophie Léonie ait été enlevée par un inconnu, dit doucement Didi.
Moi non plus, ajouta Bobby après une fraction de seconde.
Donc, c'est lui ou c'est elle?
Il est mort.
Alors peut-être que l'agent Léonie a fini par ouvrir les yeux.